Lorsque l'on commence un cheminement dans la foi chrétienne, il est tout à fait normal, et je dirais même nécessaire, de se poser un certain nombre de questions. Même chose quand on est déjà un peu affermi dans la foi, que l'on développe cette foi chrétienne au fil des années, parfois il est très bon, très nécessaire, là encore, de s'arrêter et de se reposer les questions, ou se les poser tout simplement parce qu'on ne l'a jamais fait. À mon sens, aucune question ne doit être évincée, mise de côté, et considérée en tout cas comme résolue, car il faut sans cesse revenir sur les éléments principaux pour les passer au crible. Il ne s'agit pas de tout comprendre, de tout expliquer rationnellement dans le domaine de la foi. Mais par contre, il s'agit de tester, de poser les questions. Encore une fois, si elles viennent à la surface, nous n'avons pas à les rejeter. Parfois, c'est vrai, ces questions peuvent avoir un petit côté contestataire, ou bien elles vont exprimer un doute ou des doutes, des remises en cause. Mais rassurez-vous, ça n'est pas une hérésie, ça n'est pas un péché que de se poser des questions. La foi n'est pas une sorte de pactage qui serait composé de plusieurs éléments et qu'il nous faudrait accepter en bloc. Dans le genre, c'est tout ou rien. La foi est une démarche personnelle, en même temps qu'elle va se référer à des bases, à des points de repère qu'il ne conviendrait pas de détruire ou de minimiser. Mais à l'intérieur de ce chemin balisé par les points de repère, nous avons une grande liberté. Car au fond, l'essentiel n'est pas d'ingérer tous les articles du credo, mais de développer une relation personnelle avec Dieu. Parmi ces nombreuses questions que nous pouvons nous poser, il en est qui touche à l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? A-t-on vraiment besoin de l'Église ? N'est-ce pas une réalité surfaite qui se serait en quelque sorte développée à partir du message et de la vie de Jésus, mais un peu comme se développerait une sorte de verrue. Quelle est la nature de l'Église ? Pourquoi est-il nécessaire de faire partie de l'Église ? Après tout, nous pourrions nous dire « J'ai instauré une relation avec Dieu, cette relation, elle est très personnelle, et c'est elle qui dirige ma vie. Pourquoi aurais-je besoin que d'autres s'en mêlent ? Ai-je besoin des autres pour vivre ma foi ? Dans quelle mesure appartenir à l'Église est un plus dans ma foi chrétienne ? Nous allons essayer d'aborder ces questions et peut-être encore quelques autres qui nous viendront à l'esprit au cours de notre réflexion. Demandons-nous, pour commencer, d'où vient ce mot « église » ? Il nous vient du mot grec « ecclesia », qui a donné ensuite le latin « ecclesia », tout simplement, qui signifie « assemblée ». C'est déjà un point important à souligner. L'église est une assemblée, est un rassemblement, un regroupement de personnes. C'est dire que la foi chrétienne a comme vocation d'être vécue ensemble, dans un corps, dans un tout. Mais l'étymologie nous apprend également que ce mot « ecclésia » qui signifie « assemblée », parce que « assemblée », il y a toutes sortes d'assemblées. Il y a des assemblées générales d'associations, il y a l'Assemblée nationale et bien d'autres, mais on ne les a pas pour autant baptisées Église. C'est donc que ce rassemblement qui constitue l'Église a une particularité. Et c'est la racine finalement hébraïque qui va nous mettre sur la voie. Car Ecclésia en grec vient de Kahal en hébreu, qui signifie convoquer. Ça n'est donc pas simplement un rassemblement de personnes qui vont partager un but, un projet, mais c'est une assemblée qui est convoquée. Convoquée par qui ? Eh bien, convoquée par Dieu. Et voilà déjà un aspect très important de la nature même de l'Église. L'Église n'est pas une construction humaine, n'est pas une association 1901, elle est convoquée, c'est-à-dire appelée par Dieu, et c'est Dieu qui, en l'appelant, forme l'Église.
Pâquerette, Étienne Dallaire.
Il est clair dans les récits évangéliques que l'Église a été appelée par Jésus lui-même. Parmi tous ceux qui le suivaient, nous dit l'Évangile, il en appela 12. Ces 12 ont été choisis par Jésus. Ils ne se sont pas portés candidats. Regardons l'appel de Matthieu, par exemple, que Jésus va interpeller alors qu'il est en train d'effectuer son travail de collecteur d'impôts. L'initiative vient bien de Jésus. Il choisit 12. Il appelle 12. Et c'est ainsi lui qui forme ce petit embryon d'Église autour de lui. Et il leur donna tout ce dont il était porteur. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie », disait-il aux apôtres. L'Église naissante, donc, ce petit cercle qui entoure Jésus de son vivant dans son ministère, va comme participer d'abord à la mission de Jésus. Il les envoya deux par deux, avec une mission bien particulière, c'est-à-dire que grâce à l'Église, grâce à ce petit groupe, Jésus va en quelque sorte démultiplier sa mission. Et déjà nous pouvons nous interroger, comment est-ce que Jésus, qui était investi de cette mission par le Père, va pouvoir la confier à 12 hommes, pêcheurs pour la plupart, parmi lesquels on compte un traître, un menteur et 9 fuyards. Vont-ils pouvoir mettre en œuvre la grandeur et la toute-puissance de Dieu ? Et nous voyons bien que l'Église montre parfois d'elle-même un visage qui n'est pas celui qui devrait être. En regardant les disputes, les désunions, les rivalités entre catholiques, entre également différentes églises, en voyant les lourdeurs administrative de l'Église, on pourrait être parfois tenté de repousser l'Église. Et nous pourrions nous dire, non, l'Église, ça n'est pas ça. Ça, c'est une réalité dénaturée, bien trop humaine. Mais reconnaissons que la misère humaine atteint aussi les disciples du Seigneur, que les croyants en Jésus ne sont pas plus parfaits que les autres et ne font pas parfois de meilleures œuvres que les autres. Et pourtant, Jésus a confié à ce petit groupe, puis ensuite à des groupes plus larges, plus importants, et au fil des siècles à des foules, la charge de poursuivre la mission qu'il a entamée lors de son ministère public. On pourrait alors penser que c'est une folie de la part de Dieu, qu'il aurait mieux fait de continuer tout seul. Mais c'est la preuve qu'il désire que les hommes soient associés à son œuvre. Il désire que les hommes soient des coopérateurs du salut. Et cela est en harmonie avec tout le contexte de la révélation biblique. Jamais Dieu n'agit seul, mais il saisit des hommes, je pense aux prophètes, pour annoncer publiquement sa volonté. Alors de fait, c'est un risque de la part de Dieu, mais un risque dont les chrétiens doivent être à la hauteur.